Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire, en compagnie d'Eva Rock et Céline Dacosta, la mélomane de l'équipe, premier prix du Conservatoire Lyrique de Blois.
Le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille.
Beau grain de voix, hein, Eva.
Et allez la voir en concert, surtout.
Bien sûr.
Merci.
Mais le talent vocal n'est qu'une des multiples cordes que nous avons à notre arc, car nous avons aussi l'érudition de Fabrice Delmeida. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin, à l'occasion du centenaire de son exécution, reviendra sur le destin hors norme de Rosa Luxembourg.
Merci d'écouter Europe 1, nous sommes le mardi 15 janvier. Et il est 6h, très bon réveil. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mardi 15 janvier. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. À la une, Emmanuel Macron qui donne aujourd'hui dans l'heure le coup d'envoi du grand débat censé répondre à la crise des gilets jaunes. Yes or no, les députés britanniques votent ce soir. Ils devront dire s'ils acceptent ou non le projet d'accord sur le Brexit conclu entre Theresa May et Bruxelles. Et puis, toujours un sans faute pour les handballeurs français au Mondial. Hier, ils ont battu la Corée. Ils affrontent ce soir l'Allemagne.
Europe 1.
Des barrages filtrants installés autour de Grand-Bourterroule dans l'Eure. Les gilets jaunes qui souhaitaient croiser Emmanuel Macron vont être maintenus à distance. Le chef de l'État s'exprime aujourd'hui devant plusieurs centaines de maires pour ouvrir le débat national, celui censé apporter des réponses à la crise sociale que traverse le pays. Selon un sondage, un Français sur deux a l'intention de participer à ce grand débat. Et dans certaines familles, les thèmes de discussion ne manquent pas. Victor Delande s'est rendu à Boulogne-Billancourt en région parisienne.
20h, l'heure du dîner familial chez les Cuazes, un moment sacré pour se retrouver et discuter. En attaquant son pavé de cabillaud, Hugo, 14 ans, lance un débat sur la possibilité d'instaurer le vote obligatoire en France. Sa mère et sa sœur sont divisées.
L'histoire de le rendre obligatoire, en fait, je suis un peu partagée. C'est un peu antidémocratique, donc...
Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, je pense que le vote devrait être rendu obligatoire. Je pense que c'est justement par le vote que les citoyens français peuvent exprimer leurs opinions.
Les sujets défilent, le référendum d'initiative citoyenne, la vie trop chère pour les étudiants, la transition écologique, sans oublier les impôts.
On peut pas vouloir avoir toutes les infrastructures qu'on a en France, et on a la chance de les avoir, et ne pas payer d'impôts.
Une heure passée en commun pour refaire la France, comme ils disent, et aussi apporter des idées nouvelles. Le beau-père Laurent souhaiterait notamment voir émerger dans le pays des indicateurs de bonheur.
Tout est basé sur combien d'argent on gagne. Et en fait, dans l'analyse du capitalisme, on voit que plus on gagne d'argent, moins on est heureux. Donc peut-être trouver des choses à mettre en place qui rendent les gens plus heureux, mais qui ne passent pas par gagner plus d'argent ou par s'épanouir plus dans le travail.
Autant d'avis qu'ils promettent de partager sur le site du Grand Débat.
Victor Delande, deux membres du gouvernement sont chargés d'animer ce Grand Débat. Sébastien Lecornu et Emmanuel Wargon, qui sera d'ailleurs l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15 sur Europe 1. Par ailleurs, le gouvernement entend assurer l'indépendance des débats. Vendredi, un collège de 5 garants sera dévoilé. Depuis Carcassonne, où il était en déplacement, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a estimé que le grand débat était une main tendue, une chance. Le MEDEF, de son côté, invite les entreprises à participer au grand débat national. La condamnation d'un homme de 31 ans sympathisant aux Gilets jaunes, 8 mois de prison avec sursis à Versailles pour des menaces de mort proférées sur les réseaux sociaux à l'encontre de la secrétaire d'État Marlène Schiappa et d'un policier.
On va parler des 6h03.
Vont-ils accepter les modalités du divorce? Les députés britanniques votent ce soir concernant le Brexit.
Les députés qui vont accepter ou non l'accord conclu entre Londres et Bruxelles pour la séparation de la Grande-Bretagne avec l'Union européenne. Un Brexit censé entrer en vigueur le 29 mars prochain. Mais que va-t-il se passer si l'accord est rejeté? Élément de réponse avec Sébastien Krebs.
Si l'accord est rejeté, comme attendu, Theresa May aura 3 jours. 3 jours pour proposer quelque chose, un plan B, un scénario. Peut-être espère-t-elle retourner, discuter à Bruxelles, obtenir un petit amendement et ainsi retenter un nouveau vote. Elle dit simplement que son objectif reste de quitter l'Europe le 29 mars comme prévu. Mais si le rejet est massif ce soir, et c'est probable, elle n'aura sans doute pas le temps de réfléchir au plan B. L'opposition travailliste envisage de déclencher immédiatement un vote de défiance. Il pourrait avoir lieu dès demain. Les conservateurs seraient alors forcés de choisir leur camp, sauver leur première ministre, ou bien la faire tomber, mais avec le risque d'élections anticipées. C'est toute la stratégie de la gauche. Le Brexit serait alors probablement repoussé, le temps d'élire ce nouveau Parlement, mais le problème serait-il résolu pour autant? Rien n'est moins sûr. Certains députés pro-européens manœuvrent pour tenter d'aboutir à un second référendum, d'autres poussent pour quitter l'Union coûte que coûte, même sans accord. L'horloge tourne et la Grande-Bretagne avance dans un épais brouillard. Londres, Sébastien Krebs, Europe 1.
Des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs villes polonaises hier soir pour rendre hommage au maire de Gdańsk, qu'il a succombé à ses blessures. Poignardé dimanche lors d'un événement public, son agresseur, âgé de 27 ans, venait de purger une longue peine de prison pour des attaques à main armée. Il a été interpellé. Retour en France avec aujourd'hui sur votre compte bancaire peut-être une avance de l'argent du fisc. 9 millions de foyers sont concernés. C'est une avance sur les crédits ou réduction d'impôts.
On y est, Céline. À mi-parcours, encore 15 jours, c'est dur pour Eva Rock. Le mois de janvier sans alcool.
La nouvelle tendance venue de Grande-Bretagne. On l'appelle Dry January. On vous en a déjà parlé sur Europe 1. Un mois d'abstinence après les excès de la fin d'année pendant les fêtes. Ève Roger s'est demandé si ceux qui s'étaient engagés ont tenu jusqu'ici.
Il y a les bons élèves, ceux qui tiennent le cap sans faiblir, comme Jean-Philippe à sa première tentative l'an dernier. Ce cadre de 36 ans, adepte des déjeuners professionnels, apéros et soirées bien arrosées, avait craqué au bout de 24 jours. Là, il tient bon grâce à quelques astuces.
Je me suis rendu compte qu'il existait des bières sans alcool, des vins sans alcool, des cocktails sans alcool. Du coup, j'ai l'impression d'être comme tout le monde, de pouvoir trinquer avec un même contenant et avec un contenu qui est assez similaire et qui est plutôt bon. J'ai ingurgité aucune goutte d'alcool, j'ai fait du bien à mon corps, j'ai dégonflé, je dors mieux. Tout ça, ça me motive à continuer pour les 15 prochains jours.
Première tentative cette fois pour Noël et sa femme, infirmiers tous les deux depuis 15 jours, à les écouter pour eux aussi. Tout va bien, le pari est tenu. Sauf que samedi dernier, petite entorse au contrat.
On est sorti et là on s'est accordé de boire deux verres. Je le prends pas comme le fait que j'ai craqué, je me suis autorisé. J'aurais pu ne pas le faire. Et le lendemain, on a repris l'abstinence complète sans souci.
Il faut dire qu'avant ce mois de janvier, leur quotidien c'était 20 midi et soir sans modération. Donc deux verres par semaine, c'est déjà, disent les experts que nous avons interrogés, une façon de commencer à contrôler sa consommation.
Ève Roger pour Europe 1.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann avec un ultime sujet qui fait beaucoup réagir autour de la table. On en apprend beaucoup sur les consommations des unes et des autres. Non. Et je peux vous dire que le Dry January n'est pas arrivé ni à Nice ni à Porto. C'était donc le journal de Céline Kallmann, ma compatriote Céline Kallmann. Avec qui on a trop en commun pour se chamailler, notamment une fameuse barre chocolatée.
La barre Robo Maltine, c'est de la dynamique.
Ça, c'est vrai, ça.
Bah, bien sûr.
Europe 1.
Il est 6h06, Mathieu Noël.
À suivre, cet historique, le fact-checking par l'histoire. Et ce matin, à l'occasion des 100 ans de son exécution, Fabrice Delmeda revient sur le destin d'une femme devenue symbole, Rosa Luxembourg.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Et pas besoin de parapluie aujourd'hui, car inutile un parapluie pour se prémunir des nuages.
Oui, c'est vrai. Pas beaucoup de pluie aujourd'hui, donc, mais beaucoup de nuages, effectivement. Surtout sur un gros quart nord-est ce matin. Pas mal de brumes, des brouillards également. Le soleil brille encore largement sur le pourtour méditerranéen et la Corse. Le vent faiblit enfin sur ce secteur avec cet après-midi des rafales à 60 km/h pour le Mistral. Et puis le soleil brillera largement sur la moitié sud cet après-midi. Les éclaircies reviendront timidement sur la moitié nord. Or, quant aux températures, elles sont légèrement en baisse, hein, 6 à 10 degrés pour cet après-midi. Il fait encore assez doux près de la Méditerranée puisque ça grimpera jusqu'à 16 à Toulon, à Nice ou encore à Perpignan.
Merci Céline. Eva Rock.
Oui, en ce 15 janvier, Martin Luther King aurait eu 90 ans et depuis 5 heures ce matin, nous vous demandons quelle est la personnalité historique contemporaine qui vous a marqué. Eh bien, Stéphane nous répond l'abbé Pierre avec sa volonté inépuisable d'aider l'humanité sans en profiter. Noël nous répond Françoise Dolto pour cette explication sur l'enfant qui est une personne. Et puis
et
Sophie.
Pour
et pour Carlos, exactement. Et Sophie qui nous répond Stephen King, 40 ans de succès littéraire et le maître incontesté de l'horreur. Merci pour toutes vos réponses. Vous continuez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Là, perso, j'aurais mis Tiroli Pimpon sur le chihuahua, mais visiblement, vous n'avez pas le même sens des sons que moi. C'est dommage.
Ou
dommage
du respect, ça dépend, voilà.
Ou du respect, c'est pas faux. C'est ça. Merci, chers auditeurs.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
C'est un homme anxieux qui nous a rejoint dans ce studio. Un journaliste sportif dont les velléités comiques hier n'ont pas été récompensées à leur juste valeur. Et c'est précisément ce qui angoisse Jérôme Lacroix ce matin. Il sait qu'afin d'en faire profiter un maximum d'auditeurs, son bijou humoristique d'hier lancé en catimini vers 5h15 du matin va maintenant être diffusé à 7h de plus grande écoute.
Les victoires 2-1 de Strasbourg à Toulouse. Strasbourg-Toulouse qui, comme tout le monde le sait, est un derby. Le derby de la saucisse. Voilà, c'est ma vanne.
Voilà, c'était sa vanne.
Ça rigole un peu quand même.
Alors, s'il vous plaît, Jérôme, cette fois, un journal des sports végétarien, s'il vous plaît. Sans blague impliquant des saucisses. C'est parti. crois que c'est une vanne qui a bien fonctionné, en tout cas sur Fabrice Dalméda, qui nous a rejoint dans ce studio, le monsieur histoire d'Europe 1, qui apprécie. On voit qu'on a affaire à un homme de fou.
Fabrice.
À la une du JDS, l'envie de tourner la page.
Lucas Pouille, le bleu du tennis, veut oublier une année 2018 bien laborieuse. Le nordiste de 24 ans, symbole de la faillite de tous les tricolores l'année dernière, il a tutoyé le top 10 mondial avant de s'effondrer. Il est désormais 31e et il entre en lice, il vient d'entrer en lice, il joue en ce moment même à l'Open d'Australie, premier grand chelem de l'année à Melbourne. Sur place pour Europe 1, Christophe Taureau. Christophe, Lucas Pouille est depuis peu entraîné par Amélie Mauresmo, mais pour l'heure, pas de sursaut.
Absolument, Jérôme, pour cette opération reconquête, hein, vous le disiez, Lucas Pouille s'est effectivement adjoint les services d'Amélie Mauresmo, hein, qui sur le circuit masculin s'était déjà occupé d'Andy Murray. Mauresmo et Pouille ont entamé un vrai travail de fond cet hiver, physiquement notamment, et Pouille est apparu affiné ici en Australie. Alors vous le disiez aussi, cette période foncière n'a pas encore payé, hein, puisque le nordiste a perdu ses 4 premiers matchs de l'année. Mais le vrai test, c'est donc ce premier tour de l'Open d'Australie face au Kazakh Mikhail Kukushkin, 56e joueur mondial, un joueur extrêmement imprévisible. Un match qui a débuté il y a une grosse vingtaine de minutes et le score est de 5 jeux à 1 en faveur de Lucas Pouille.
Christophe Taureau en direct de Melbourne pour Europe 1. On suit la compétition avec vous. Les résultats de la nuit. Qualification pour le deuxième tour de Gilles Simon, de Pierre-Hugerbert. À suivre aujourd'hui côté bleu, notamment Tsonga et Pair. Côté favori, c'est passé pour Nishikori et pour Serena Williams. Entrée en lice aujourd'hui de Novak Djokovic. Le Dakar et Sébastien Loeb, gêné par des problèmes électriques sur sa Peugeot, perd presque tout espoir de remporter le rallye raid. 11e de la 7e étape hier au Pérou. Il accuse ce matin au classement général près d'une heure de retard sur le premier, le Qatari Al-Attiyah.
On passe, Jérôme, à l'histoire du jour.
L'histoire d'un douloureux souvenir. Il y a 12 ans, un Allemagne-France à Cologne, demi-finale du mondial de handball, remporté au forceps par les Allemands dans un climat volcanique dû à des décisions arbitrales contestées. Aujourd'hui, à Berlin, c'est un autre Allemagne-France au mondial. Enjeu bien moindre, hein, puisque c'est la première phase de groupe, mais c'est un test dans la compétition pour les tricolores. Première grosse opposition. Et de l'époque de 2007, reste seulement 4 vieux loups de guerre, dont Didier Dinard, désormais sélectionneur.
Bien sûr que c'est un autre match. On ne peut pas parler de revanche. Les vieux briscards, à un moment donné, peuvent se souvenir de ce qui s'est passé. L'histoire montre qu'il y a eu peut-être un résultat pas logique, mais moi j'ai pour habitude de participer aux compétitions sans penser au passé.
Allemagne-France, coup d'envoi 20h30 avec la possible apparition de Nicolas Karabatic qui revient de blessure. Les Bleus abordent ce choc invaincu, 3 victoires sur 3. La dernière hier soir, 34-23 face à la Corée unifiée.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Merci Jérôme. Et des sensations fortes du sport, nous passons au soubresaut de l'histoire. Car Céline, Montesquieu ne disait-il pas « La paix est l'histoire des sages, la guerre est l'histoire des hommes ».
C'est pas faux.
Je savais que vous aviez lu Montesquieu. Bref, l'heure est venue d'accueillir Fabrice Dalméda, le monsieur histoire d'Europe 1.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Une cérémonie a rassemblé la gauche allemande dimanche à l'occasion du 100e anniversaire de l'assassinat de Rosa Luxembourg. Qui était cette femme tuée précisément un 15 janvier?
Rosa Luxembourg était une socialiste connue dans le monde entier. Elle est née en Pologne avec la nationalité russe en 1871, mais est passée en Allemagne à 27 ans et a commencé à militer dans les rangs du parti social-démocrate, le SPD. En marxiste convaincue, Rosa Luxembourg veut changer la vie des exploités, les ouvriers, les femmes. Pour elle, les travailleurs n'ont rien à gagner dans les guerres et devraient s'y opposer à tout prix. Elle le réaffirme en juillet 1914, alors même que les députés du SPD votent les crédits de guerre.
Elle est en prison au moment de la guerre.
Oui, elle fait plusieurs séjours en prison pendant le conflit pour incitation à la désobéissance. Puis, elle se rapproche de l'extrême gauche spartakiste qui devient communiste en 1918 et ce sont eux qui lancent, le 5 janvier 1919, une révolte contre le gouvernement social-démocrate à Berlin. Rosa Luxembourg les soutient par loyauté, mais la répression ne tarde pas. Le 14 janvier 1919, elle signe son dernier éditorial titré « L'ordre règne à Berlin ». Dans ce texte, elle se moque des militaires. « Ces lamentables vaincus de l'Argonne et des Flandres, dit-elle, qui se refont une réputation en écrasant à peine 300 spartakistes, le mot ne lui sera pas pardonné. » Et donc,
Que lui arrive-t-il ensuite ?
Bah, le lendemain, elle est arrêtée par des militaires, évidemment, et pendant son transfert en prison, elle est abattue par le chef de ce groupe et jetée le corps dans un canal tout proche. C'était le 15 janvier 1919 à Berlin. On peut encore aujourd'hui lire ses textes énergiques, très inventifs, pour penser la société.
Merci beaucoup Fabrice Delmeda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, il est 6h15, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. Or, en janvier, il n'y a pas que les écrivains qui ont droit à une deuxième rentrée, les étudiants aussi. De plus en plus d'écoles et de formations proposent des rentrées décalées en janvier ou en mars pour les étudiants qui ont le sentiment de s'être trompés de voie. À 6h20, on recevra Étienne Glaise, journaliste au magazine L'Étudiant. Des étudiants, c'est vrai, parfois encore insuffisamment accompagnés en termes d'orientation.
Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour celui-là ? Qu'est-ce que je mets aux parents ?
Oh, pour celui-là, plus rien à faire. Vous n'avez qu'à dire aux parents d'en faire un autre.
On y vient, mais d'abord un peu de musique avec Georges Ezra, Shotgun sur Europe 1.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. By in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. And you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone.
Shotgun, Georges Ezra sur Europe 1.
Europe 1, il est 6h18, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, de bonne humeur et d'invités au cœur de l'actu. À 6h20, nous recevrons Étienne Glaise, journaliste au magazine L'Étudiant, pour évoquer un nouveau phénomène et un nouvel atout pour les étudiants, la rentrée décalée en janvier pour ceux qui estiment s'être trompés de voie en septembre. Solution viable ou bricolage, en tout cas l'idée est séduisante. Si elle avait existé du temps de Céline Dacosta, hein, quand elle était étudiante, ça lui aurait évité de perdre un semestre supplémentaire en musicologie.
Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille.
Dommage.
Il est 6h21, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Emmanuel Macron donne le coup d'envoi du grand débat national aujourd'hui. Ça sera dans la petite commune de l'Eure, Grand-Bourterould. Par ailleurs, 5 garants vont être nommés pour garantir l'indépendance de ce grand débat. C'est l'heure du vote pour les députés britanniques. Ils vont décider ce soir s'ils acceptent ou non l'accord sur le Brexit défendu par la Première ministre Theresa May. Enfin, du sport, championnat du monde de handball. Match à haut risque ce soir pour l'équipe de France face à l'Allemagne. Hier soir, les Bleus ont battu l'équipe de Corée unifiée 34-23.
Europe 1.
5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce mardi 15 janvier 2019. Dans l'actualité également, les rentrées décalées. De plus en plus d'écoles et de formations proposent des rentrées entre janvier et mars pour les étudiants qui ont le sentiment de s'être trompés de voie. Bonjour Étienne Glaise.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes journaliste et conférencier pour le magazine L'Étudiant. Alors déjà, combien d'étudiants se réorientent comme ça dans l'année qui suit le bac et sont donc concernés par ces rentrées décalées ?
Alors, qui se réorientent, ça va être difficile de vous donner un chiffre, mais je peux vous dire qu'il y a au moins 100 000 étudiants qui sont en réorientation et qui repassent sur la plateforme Parcoursup, voilà, en plus des 750 000 lycéens là, qui vont s'inscrire en première année. Et un tiers des étudiants en première année de licence sur 350 000, voilà, donc plus de 100 000 abandonnent en cours d'année. Donc c'est un marché énorme.
Mais vous dites que c'est une année qui a commencé par une erreur d'aiguillage, n'est pas forcément perdue. C'est quoi les possibilités de rattrapage?
Non, c'est jamais perdu. C'est le Dalai Lama, ça. Oubliez l'échec, retenez la leçon. Hein. C'est une expérience. Voilà, on a forcément appris des choses sur soi. Pourquoi on est fait? On s'est trompé de voie, mais on a le droit de recommencer. Il y a beaucoup de passerelles dans l'enseignement supérieur par rapport peut-être à l'époque où moi j'ai fait mes études.
Enfin, on sent une pointe de regret.
Voilà. Et on peut se réorienter. Alors, essayer de. Voilà. Puis quand on est tombé de cheval, il faut se remonter tout, il faut remonter tout de suite en selle. Hein. Il faut pas essayer de pas attendre. Et beaucoup d'écoles, alors beaucoup d'écoles dans le privé, donc privé, payant, lucratif, onéreuse, et tu proposes des formules de rentrée décalée, beaucoup dans les écoles de commerce, beaucoup d'écoles spécialisées, journalisme, communication, voilà, on a... C'est souvent la fac, hein, des déçus de la fac, beaucoup de jeunes qui, bon, je suis allé en droit, en économie, gestion, mais finalement ça me plaît pas, ou j'ai pas bossé, ou j'avais pas l'autonomie qui me permettait de m'organiser pour suivre des études à l'université. Oui.
Mais justement sur le profil de ces étudiants qui vont faire une rentrée décalée, c'est plutôt des étudiants brillants qui réalisent qu'il y a une filière qui les intéresse encore plus que celle qu'ils avaient choisie initialement, ou plutôt des élèves en difficulté qui tâtonnent.
Non, vous avez vraiment les deux. Prenez par exemple les étudiants en médecine qui ont eu les examens à la fin de premier semestre, qui sont recalés, ils sont excellent en sciences, en maths, physique, chimie, ils vont s'orienter vers les écoles d'ingénieurs. Et vous avez des écoles d'ingénieurs, les écoles d'ingénieurs puissent dans ce vivier ce qu'on appelle les bacs plus 1. Et d'ailleurs, elles cherchent à féminiser leur promotion. On manque d'ingénieurs et on manque de femmes ingénieurs. Donc on va puiser ils le disent avec presque cynisme, on va puiser dans le vivier des étudiantes en PACES qui ont été recalées et on en fait des formidables ingénieurs après les avoir renarcissisés.
Ce principe de la rentrée décalée, ça vaut aussi pour les formations courtes comme les BTS?
Ah oui, bien sûr, les BTS, oui. Alors, foncez, on s'était amusé. Allez, à l'étudiant, on a une cellule de data journaliste, on a 300 établissements de formation qui proposent encore des centaines de formations. Et c'est beaucoup les BTS, beaucoup dans les lycées privés. Des BTS, je sais pas, dans le commerce, c'est le classique, le BTS MUC, hein, Management des Unités Commerciales, Négociation Relations Clients, Gestion des Administrations. Il y a encore des places. Il faut contacter les établissements au plus vite.
Il faut se dépêcher. Oui. Eva Rock, visiblement, a envie de se réorienter. Elle lève le doigt.
Oui, exactement. Étienne Glaise, est-ce qu'une rentrée décalée, ça veut dire qu'on sera diplômé en même temps que les étudiants qui ont démarré, eux, en septembre? Ou on est décalé aussi pour le
ça,
diplôme?
Ça, ça va dépendre de votre capacité de travail, de votre motivation. Il y a des DUT qui vont vous proposer, donc c'est des départements de l'université, hein, qui vous proposent, je sais pas, au RIAC, ils vous proposent un semestre intensif, mais alors vous allez vous oublier les sorties le week-end, vous oubliez le soir, vous allez cravacher, hein, vous allez faire des heures sup pour rattraper le temps perdu, et les vacances de printemps, vous oubliez, vous allez bosser pendant les vacances de printemps, et vous allez pouvoir peut-être essayer.
Il faut être prêt à ça.
Et vous allez peut-être pouvoir. Sinon, on va vous proposer une diplomation au mois de février de l'année d'après. Vous serez en décalage, ce qui peut vous poser un problème pour la poursuite d'études. Je pense
au
DUT,
où
souvent on continue avec une licence pro ou les concours d'admission parallèle en école d'ingé, d'école de commerce.
Est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans ce principe de la rentrée décalée?
C'est un marché, donc excusez-moi de parler de l'offre de formation comme un produit, mais... Sachez ce que vous achetez, la qualité, c'est-à-dire que si vous cherchez une formation diplômante, vérifiez que les établissements vous vendent du bachelor, par exemple, beaucoup d'écoles de commerce
privées. Oui, c'est un titre qui fait rêver,
bachelor. Mais bachelor, c'est une appellation marketing pour vendre une formation. Mais est-ce qu'elle est diplômante? Est-ce qu'elle est reconnue par l'État? Est-ce que c'est un titre professionnel du ministère du Travail?
Comment
est-ce
on
que
vérifie
c'est...
tout ça?
Ah ben, vous allez sur l'étudiant. On donne, et on classe les formations, on fait des palmarès et tout. On a des salons aussi d'orientation. On fait des articles sur l'étudiant.fr tous les jours, sur les écoles de commerce, sur les écoles d'ingé, les écoles spécialisées. On classe tout ça et voilà. C'est-à-dire que même si vous avez une formation, vous avez des formations qui... Vous avez des secteurs industriels, je pense aux métiers du numérique qui font beaucoup rêver les jeunes, et on manque de codeurs, on manque de développeurs. Il y a des formations au numérique, elles ne sont pas forcément diplômantes, elles vont peut-être vous donner du travail, mais sachez ce que vous achetez, la qualité, surtout quand c'est payant. Voilà.
Merci beaucoup Étienne Glaise pour toutes ces informations passionnantes. On rappelle que vous êtes journaliste, ça je crois qu'on l'aura compris, au magazine L'Étudiant. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin.
Il est 6h26, Mathieu Noël.
Ah les amis, et oui j'ai fait mon petit A de quand j'ai oublié de tourner la page et que je ne sais plus où on en est. Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et la grisaille aussi hélas.
Il est 6h29, Mathieu Noël.
Avant de retrouver le journal de 6h30, voici la météo de Céline Dacosta. Une journée calme, mais encore nuageuse.
Oui, beaucoup de nuages bas ce matin avec quelques brumes et brouillards, notamment dans le nord-est et centre-est. Et puis le soleil va briller, toujours près de la Méditerranée, avec le vent qui faiblit enfin. Des rafales à 70 km/h pour ce matin. Des températures qui sont en baisse, moins 3 degrés à Aurillac. Il en fait 4 à Lille, 7 à Paris, 9 à Biarritz et déjà 11 à Bastia.
Et cet après-midi, Céline ?
Soleil pour la moitié sud avec encore un peu de grisaille le long de la Garonne. Le vent faiblit encore près de la Méditerranée. Pour la moitié nord, pas mal de nuages toujours, mais avec quelques éclaircies qui seront quand même très timides. Les températures, légère baisse aussi cet après-midi. 6 à Mulhouse, il en fera 9 à Paris, 12 à Marseille et 16 à Ajaccio.
Merci Céline Dacosta.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos rigoureuses dans un écrin de bonne humeur grâce à une équipe soudée. D'ailleurs, hier, Céline Dacosta avait son entretien annuel et elle a parlé de nous, Eva, David et moi.
Elle est professionnelle, mais les deux autres pas du tout.
Bien, à suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques vous livrent une vision unique de l'actu, la leur. Et notamment ce matin, cette question, le grand débat est-il la dernière chance de l'exécutif ? La réponse juste après le journal de cet homme qui épate par son professionnalisme et sidère par son charisme. C'est bien simple, chaque matin, je suis obligé de retenir Céline. Céline, cessez de fantasmer en regardant Doucan.
C'est difficile.
Mais gendarmez-vous quand même.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Les Français vont-ils s'emparer du grand débat national ? C'est ce que souhaite Emmanuel Macron aujourd'hui en déplacement dans l'Eure. Le président lance la concertation. 12 immeubles toujours inaccessibles dans le centre de Paris après l'explosion de samedi matin. Que vont devenir les habitants ? Quelle solution de relogement ? Reportage dans un instant. Les handballeurs français peuvent à nouveau nous faire rêver et aller conquérir un nouveau titre de champion du monde, mais sur leur route il y a leur bête noire, l'Allemagne. Match à haut risque ce soir à 20h30.
Europe 1.
C'est laborieux, mais cela prend forme. Il y aura finalement 5 garants de l'indépendance du grand débat national après le retrait de Chantal Jouanneau. 2 d'entre eux seront nommés par le gouvernement, les 3 autres respectivement par le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil économique, social et environnemental. L'identité de ces 5 sages sera connue vendredi, donc après le début du débat, puisque le coup d'envoi, c'est aujourd'hui donné par le chef de l'État. Emmanuel Macron sera dans une petite ville de l'Eure, Grand-Bourterould, où il échangera avec 600 élus locaux réunis pour l'occasion. Il sera aussi attendu par des protestataires portant en gilet jaune. Jean-Gabriel Bourgeois les a rencontrés pour Europe 1.
20h au rond-point de la Lune, dans la cabane des gilets jaunes, ils sont une trentaine venus de tout le département, autour de Laurent et de Francis qui coordonnent le mouvement ici.
Soyez conscients que si vous venez autour manifester, il faudra être extrêmement prudent et extrêmement réactif.
C'est ce qu'il faut.
Beaucoup ne sont pas fermés au grand débat lancé par Emmanuel Macron, mais un débat avec eux. Ils demandent à être reçus pour exposer leurs revendications, à commencer par le pouvoir d'achat, explique Francis.
Notre volonté, c'est d'aller faire voir d'abord qu'il y a des gilets jaunes qui veulent le dialogue, qui veulent discuter dans le calme et dans la non-violence. Et puis, s'il y a cette volonté de la part du gouvernement, la moindre des choses, c'est quand même au moins qu'ils nous reçoivent.
Un arrêté préfectoral interdit toute manifestation dans Grand-Bourterould. Alors l'idée d'une chaîne humaine tout autour de la ville séduit, notamment Hélène qui viendra sans porter de gilet jaune pour éviter d'être contrôlée.
Pourquoi pas l'idée de la chaîne humaine ? Là où on pourra accéder au plus près, quoi. Qu'on vient pacifiquement et voilà, qu'on est là quand même.
2 rendez-vous sont déjà fixés, un ce matin et l'autre en début d'après-midi, pour les très nombreux gilets jaunes en provenance de l'Eure, mais aussi de Lisieux, du Havre, de Rouen, de Paris et même d'Allemagne. Brionne, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Alors Emmanuel Macron ira-t-il discuter avec des habitants lors d'un de ces bains de foule qu'il affectionne ? Tout dépendra de l'ambiance, indique l'Élysée. Je précise aussi qu'un arrêté préfectoral interdit toute manifestation sur la commune jusqu'à demain. Ce déplacement à Grand-Bourterould est la première étape d'un Tour de France qui conduira Emmanuel Macron à écouter les maires de toutes les régions françaises.
Revenons maintenant, David, sur le drame qui a endeuillé Paris samedi dernier.
Oui, l'explosion d'une boulangerie dans le 9e arrondissement, vraisemblablement due à une fuite de gaz. 4 personnes ont été tuées, une cinquantaine d'autres blessées et de très nombreux habitants du quartier se retrouvent sans logement. 3 jours plus tard, le secteur est toujours bouclé. 12 immeubles en tout sont inaccessibles. La question que personne n'ose vraiment se poser, mais qui hante les sinistrés, Est-ce qu'ils pourront un jour rentrer chez eux ? Reportage Mathieu Bock.
Aujourd'hui, 7 immeubles sont frappés d'un arrêté de péril. Cela veut dire que personne ne peut y entrer, pas même les pompiers. Et si la maire du 9e arrondissement, Delphine Burkly, espère que des travaux de consolidation seront bientôt lancés, elle précise que cela prendra beaucoup de temps.
C'est vrai qu'il faut dire la vérité et que la situation ne va pas être rétablie dans 3 jours, mais qu'elle va prendre du temps. Une enquête judiciaire est en cours. Elle aussi prendra beaucoup de temps et donc il nous faut accompagner les habitants pour leur trouver des solutions de longue durée.
Mais lorsqu'ils entendent cela, certains habitants, comme Nicolas et Claire, craignent de ne plus jamais rentrer chez eux.
Honnêtement, on a entendu des choses comme ça. Ça traumatise vraiment tout le monde. Pour nous, c'est exclu, pas envisageable, mais on fera tout pour que ce soit pas ça.
Je veux pas y croire et j'y crois pas trop. On y a pensé, mais ça nous fait très peur, quoi, parce que malgré tout, on a nos affaires, on y croit. On croit qu'on peut rentrer. Je pense que c'est vraiment, on y pense, mais c'est vraiment la dernière, la solution ultime. J'espère que ce sera pas le cas. Quoi.
Les travaux de consolidation devraient commencer au mieux dans une semaine, et c'est seulement après que les policiers pourront investir le bâtiment et poursuivre leur enquête.
Reportage signé Mathieu Bock. C'est le jour J pour Theresa May. La Chambre des communes votera ce soir pour ou contre le projet d'accord de Brexit que la première ministre britannique défend. Il y a de grandes chances qu'elle soit désavouée. Elle a plaidé hier au Parlement en mettant en garde les députés contre les conséquences imprévisibles. Je cite, qu'aurait un rejet de l'accord.
À suivre dans ce journal, ce sont des dysfonctionnements qui ont entraîné la mort d'une patiente aux urgences de Lariboisière à Paris le mois dernier. C'est une enquête interne qui l'affirme. À tout de suite.
Il est 6h35. Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan. Une patiente était décédée au mois de décembre aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris.
Oui, les conclusions de l'enquête interne évoquent des dysfonctionnements et un manque de moyens. La patiente de 55 ans s'appelait Micheline Myrtille. Elle avait été retrouvée morte dans son brancard après plusieurs heures sans soins. Pour sa sœur Marie, qui vit en Martinique, ce rapport est insuffisant. Notre correspondante sur place, Fanny Marceau, l'a rencontrée.
Dans leur salle à manger, Marie et son époux ont installé un petit autel, des photos de Micheline et une bougie constamment allumée. Ce rapport des hôpitaux de Paris, ils l'attendaient depuis près d'un mois, mais aujourd'hui Marie est déçue.
C'est pas maintenant, à cause du décès, qu'il voit qu'il faut mettre des médecins, il faut mettre des infirmières. Lorsqu'on appelle quelqu'un et que la patiente est malade, elle ne peut pas se lever. Déplacez-vous, allez dans la salle, on voit que la patiente elle est souffrante, vous la faire soigner. Et que ça ne recommence plus.
La semaine dernière, Marie enterrait son unique sœur, ici, en Martinique. Ce rapport, elle attendait qu'il lui apporte des réponses. Voilà un mois qu'elle cherche à connaître les causes de ce décès.
Je ne dors pas la nuit, j'essaie de réfléchir. Je me demande, elle n'était pas malade, qu'est-ce qu'elle avait ? C'est très dur.
Pour Marie, le rapport de l'APHP est loin d'être suffisant. Sa famille a porté plainte. Elle a engagé un avocat à Paris pour faire toute la lumière sur la mort de Micheline Myrtille. Au Vauclin, Fanny Marceau, Europe 1.
Et je reviens tout petit peu en arrière, Mathieu, pour apporter une précision concernant le quartier sinistré par l'explosion de la boulangerie dans le 9e arrondissement de Paris. J'évoquais 12 immeubles inaccessibles. Mmh. Notre reporter Mathieu Bock parlait de 7 immeubles touchés par un arrêté. Je vous explique. Il y a 7 immeubles touchés par un arrêté de péril et 5 autres par un arrêté temporaire. Donc en tout, 12 immeubles concernés à ce stade.
Merci beaucoup pour cette précision. Et maintenant, David, le choc de ce premier tour du mondial de hand masculin.
Oui, c'est la 4e journée de la phase de poule et la France rencontre ce soir à 20h30 sa bête noire, l'Allemagne. Il y a des matchs qui marquent l'histoire du sport. En 2007, les Français avaient perdu en demi-finale face aux Allemands, un événement que les joueurs ont bien en tête. Christophe Lamar.
Chacun son traumatisme. Les footballeurs ont Séville 82, les handballeurs ont Cologne 2007. Dans les deux cas, les ingrédients sont identiques. Une demi-finale étouffante face à un adversaire jugé arrogant et une défaite au terme d'un arbitrage douteux. Le temps a passé, mais la cicatrice est encore visible. Philippe Bana, le directeur technique national.
Il y en a quelques-uns qui vont quand même garder la mémoire de ça parce que ça avait été une telle souffrance à la fois bénéfique. Elle nous a permis de rebondir, d'aller plus loin. Mais il y en a quelques-uns, et je pense à Mika, qui aura gardé ça bien au fond de lui et qui le ressortira le bon moment.
Mika, c'est Michaël Guigou, l'ailier virevoltant. Il sera là ce soir. Il y avait aussi Didier Dinard, devenu sélectionneur, et Guillaume Gilles, son adjoint. Il le promet, ce France-Allemagne sera spécial.
Je peux juste vous annoncer que ça va être chaud bouillant et que ça va être juste énorme en termes d'événements, de pouvoir à nouveau vivre un France-Allemagne à Berlin. Et je me réjouis à l'avance de pouvoir participer à cet événement-là parce que Ça va être du lourd.
Le vainqueur prendra surtout une petite option sur les demi-finales. Berlin, Christophe Lamar, Europe 1.
C'était le journal de David Doucan. Merci David. David, un talent journalistique colossal, oui, mais aussi un sens de l'à-propos digne des meilleurs chansonniers qui aurait pu, qui aurait dû le mener à Bobino, comme on a pu le constater hier au détour d'une brève sur le foie, F-O-I-E.
Et oui. Prenez-vous suffisamment soin de votre foie. Je ne parle pas de votre corpus spirituel, mais bien de l'organe. C'est un jeu de mots, c'est une astuce.
Céline, maintenant que Doucan nous a hissé sur les cimes de l'humour, de là-haut on devrait y voir plus clair côté météo.
C'est vrai, même s'il y a beaucoup de nuages encore.
Ah ouais. Là on est au-dessus des nuages comme ça.
Si vous avez besoin d'aide sur les blagues,
aucun problème. Parce que je mais vous savez que j'y pense de plus en plus.
Voilà,
vous embauchez soit comme auteur, soit comme sparring partner.
Ah oui, sparring partner plutôt, parce que
oui, c'est votre statut.
L'ombre, est-ce vraiment la bonne idée?
Non, pour vous non, effectivement. Vous êtes
dans la lumière pour vous. Oui, le temps, merci. Le temps est calme, des nuages, on en aura surtout sur la moitié nord aujourd'hui, à quelques éclaircies, surtout cet après-midi. Le soleil lui va briller déjà largement ce matin des Pyrénées jusqu'aux Alpes, puis en remontant vers la Franche-Comté et puis sur toute la moitié sud pour cet après-midi. Quant aux températures, elles baissent un peu. Cet après-midi, il fera 6 degrés à Metz, 7 à Blois, 9 à Paris, 11 à Biarritz et 16 degrés du côté de Nice.
Merci beaucoup Céline.
Il est 6h41, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures d'infos teintées de douce allégresse, grâce notamment à l'entrain inusable de ma complice Céline Dacosta. Tout va bien Céline?
Moi, ça ira quand je serai recouchée.
Bien, à suivre, vous les désirez ardemment, ils arrivent. Politique, économie, médias, les trois fantastiques vous livrent leur vision, toujours originale mais toujours argumentée. Au programme ce matin notamment cette question, le grand débat voulu par Emmanuel Macron, serait-il le débat de la dernière chance pour l'exécutif?
Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Cette fois, c'est le coup d'envoi donné par Emmanuel Macron aujourd'hui à Grand-Bourterouls dans l'Eure. Avec 600 élus locaux réunis pour l'occasion, le grand débat national sera finalement organisé par deux ministres. Quant à l'indépendance de la concertation, elle sera garantie par un collège de 5 personnalités dont les noms seront connus vendredi. Jour J aussi au Royaume-Uni, les députés britanniques votent ce soir pour ou contre le projet d'accord du Brexit. Les décomptes sont à ce stade défavorables pour la première ministre Theresa May qui défend ce texte de compromis. Enfin, quatrième journée de la phase de groupe du Mondial de handball. Ce soir, la France affronte l'Allemagne. Coup d'envoi 20h30.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
La logique aurait voulu que tel Johnny au Stade de France en 98, ils arrivent en hélicoptère sur une musique de Wagner. Hélas, pour de mesquines raisons d'assurance, ils ont dû se contenter d'entrer par la porte. Comme tout le monde, voici les trois fantastiques. Eva Rock pour la télé, Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlet pour l'économie. Axel qui est très doué en économie, moins en chinois. En effet, hier, c'est pas moins de 17 fois en 3 minutes que le Dauphin d'Or a écorché le nom du géant chinois des télécoms Huawei, ce qui aurait presque pu laisser croire à un duo inédit, Axel de Tarlet, Aya Nakamura.
Huawei. Bah je sais pas comment on dit. Huawei.
Premier tube d'Axel de Tarlet, déjà disque de platine. Bravo Axel. On commence néanmoins par la politique avec vous, mon cher Mickaël Darmon. Le grand débat débute aujourd'hui. On l'a dit, le coup d'envoi est donné par le président de la République. Au sein de l'exécutif et autour d'Emmanuel Macron, on retient son souffle.
La lettre est partie, il faut maintenant qu'elle arrive. Cette réflexion de Jean-Marc Borello, un patron de l'économie solidaire et ami du chef de l'État, en dit long. Au sein de l'exécutif, on considère qu'avec ce grand débat national, eh bien Macron tente un coup de poker. Car du grand débat au grand déballage, eh bien il n'y a qu'un pas qui peut ou enflammer ou apaiser le pays. Dans les couloirs du gouvernement, certains hier se sont étonnés que la question de l'immigration, par exemple, ait été posée en termes de choix sur les quotas. Mais que n'aurait-on dit si le président n'en avait pas parlé hier? Les premiers mots de la ministre du Travail, d'ailleurs, ont été consacrés à la crise démocratique qui menace la France. Sa capacité à réformer devient donc un défi dans ce contexte. Et pour cette raison, la ministre souhaite, comme d'autres, que le plus grand nombre participe au débat afin qu'il ne se fasse pas noyauter par les extrêmes.
Justement, ce sont deux ministres qui sont chargés de mettre en œuvre ce grand débat national.
Et oui, Emmanuel Wargon, un secrétaire d'État à la transition écologique, sera chargé du lien avec la société civile. Alors, c'est une experte des questions sociales, ancienne directrice de cabinet auprès de Martin Hirsch pendant le mandat de Sarkozy. Elle a construit le RSA. Sébastien Lecornu, lui, est parmi les ministres que Macron apprécie le plus pour ses capacités de mécano politique. C'est d'ailleurs sur ces terres, dans l'heure, qu'Emmanuel Macron démarre sa tournée des maires. Ces deux membres du gouvernement se trouvent donc chargés de mener à bien ce qui est un véritable tournant pour le président, parce que, selon un spécialiste des crises politiques, Emmanuel Macron avait gouverné selon son offre, le projet Jupiter. Aujourd'hui, le voilà obligé de s'adapter à la demande, celle des Français, dont en colère. Et avec ce débat, Macron place aussi les Français face à leurs responsabilités. Dites-moi quel impôt baissé, dites-moi quel service public donc supprimé. Sa lettre de question a l'air de ressembler aussi aux consultations dont le président est coutumier avant de prendre une décision. Bref, pour le président, ce sera le respect de la lettre ou le néant. Et s'il fallait donc donner un titre à ce débat, on pourrait aussi s'inspirer d'une de ces formules fétiches par SMS. Alors, comment vous voyez les choses?
Ah, c'est une de ces formules.
Absolument.
On voit qu'il vous envoie des SMS. Merci Mickaël Darmon. Après la politique, on passe à l'économie. Axel de Tarlet, avec cette question, quelles sont les couleurs qui ont la cote chez les automobilistes? Le choix de la couleur d'une voiture n'a rien d'anodin, Axel.
Voilà, alors donc c'est un spécialiste de la peinture pour voitures qui sort cette étude mondiale. Alors, à votre avis, en Europe, quelle est la couleur numéro 1 sur nos routes et autoroutes?
Le gris foncé.
Le blanc.
C'est le blanc, bravo. Ah bon, 25% le suivi blanc. Par le gris, 22%. Et le noir, juste derrière, 21%. Alors quand je dis que c'est pas anodin, vous avez raison, pas de faute de goût. En général, le blanc, c'est réservé aux petites voitures et le noir aux grosses voitures statutaires. Voilà.
Et il n'y a pas de couleur, de voitures jaunes, rouges,
alors,
vertes?
Alors, de moins en moins. Et encore, en Europe, nous sommes le continent du monde où il y a le plus de couleurs. Si vous regardez en Afrique, en Asie, où la voiture est très statutaire, alors là, c'est blanc ou noir. Tandis que si, en Europe, on a quand même... Alors, à votre avis, quelle est la couleur qui arrive numéro 1? Je fais mes
le bleu
toujours. Le bleu, bravo,
ah,
10%.
Rouge, ouais.
Et suivi par le rouge.
Tout le monde n'a pas la chance de rouler en Ferrari comme vous.
Oui, c'est ça.
Et là, et bah, exact, alors, peu, là, Mathieu, vous pointez le doigt. Exactement. Et bah, vous savez qu'il y a des études qui montrent que le rouge, justement, c'est typiquement des voitures tape à l'œil, des Ferrari.
Et voilà.
Et vous vous souvenez de ces études disant que les propriétaires de voitures rouges avaient des conduites plus extravagantes et étaient davantage sujets à des accidents. Il y avait même des rumeurs comme
oui,
quoi.
Oui, mais en même temps, on les voit mieux.
Et alors, eh ben, parfait. Il y a une autre étude australienne qui dit que la, non, la voiture qui a le plus d'accidents, c'est la voiture noire, justement parce qu'on la voit peu.
Et oui, mais c'est
et
ça.
Et que donc les assureurs surfacturent. Alors c'est pas vrai, j'ai eu les assureurs, ils disent pas du tout. Nous ne pratiquons pas de racisme anti-couleur. Vous pouvez avoir une voiture jaune à petits pois verts, elle sera facturée le même prix qu'une voiture sombre.
Merci beaucoup Axel. Et Baroque, qu'est-ce qu'on regarde à la télé
ce soir?
Écoutez,
ce soir France 2 propose un documentaire de 3 heures. Quant au sujet, vous allez essayer de le deviner comme des grands en écoutant ce montage de quelques phrases que vous pourrez entendre ce soir.
Les hommes du gouvernement n'ont pas compris ce qui arrivait. Quand on détient le pouvoir, pour être obéi, il faut soit faire peur, soit être aimé.
Si on veut bien comprendre la vie, et donc les gens, et donc la vie d'un pays, eh bien il faut essayer de se mettre un peu à leur place. Et que si la distance s'installe trop, eh bien on ne se met plus à la place de personne.
C'est le contre-pouvoir principal, c'est la rue. C'est vrai que c'est par la rue qu'à un moment ou à un autre peut s'exprimer de manière grave la situation.
C'est une soupape politique, c'est une soupape d'alerte. C'est la soupape dans laquelle on dit « ça va aller mal ».
Alors dans l'ordre, vous avez entendu Jean-Louis Debré, Édouard Balladur, Georges Pompidou, Jean-Pierre Raffarin et Roland Dumas. Et le sujet n'est pas les Gilets jaunes, mais la 5e République. C'est un documentaire fleuve qui s'appelle « La 5e République au cœur du pouvoir » et qui raconte la Constitution depuis son élaboration en 1958. Alors difficile de ne pas faire un parallèle, évidemment, avec la situation actuelle. Le film revient sur des épisodes comme l'indépendance de l'Algérie, mai 68, mais aussi le vote de l'IVG, la politique étrangère en Afrique, au Moyen-Orient. Et comment à chaque fois la 5e République public a su s'adapter à ces moments de crise. Alors certes, 3 heures, c'est long, mais sincèrement, l'écriture du documentaire, les archives et surtout la qualité des interviews offrent un documentaire absolument passionnant. Mickaël, c'est pour vous, avec au casting des anciens présidents, des anciens premiers ministres ou ministres, des historiens, des professeurs de droit, tous brillent par leur analyse, mais aussi par leur liberté de ton et cette capacité à raconter des petites histoires dans la grande histoire. C'est absolument passionnant et c'est à voir sur France 2 à 21h.
Merci Eva Rock, merci Axel de Tarlet, Mickaël Darmon, les trois fantastiques seront de retour demain peu avant 7h moins le quart. Vous avez aimé cette séquence, Axel?
Oui, oui.
Bah, j'en étais sûr.
6h51, Mathieu Noël.
Debout les copains, c'est bientôt terminé, mais qu'importe puisque la relève arrive. La matinale de Nico Saliagas, 2 heures d'information impartiale avec des éditorialistes super impartiaux qui veillent à nous donner une vision équilibrée de l'actualité, surtout économique. Pas vrai, Axel? Mais qu'est-ce que vous faites, Axel? C'est quoi cette bouteille de champagne? Vous trinquez?
Au banquier, à la mondialisation et aux plus riches.
Le meilleur est à venir, le débrief de la matinale de Nico Saliagas s'assure.
Il est 6h55, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 d'Europe 1, et nous entrons dans cette phase délicate où Eva et moi jubilons d'avoir bientôt terminé notre journée de travail, alors que la journée de Céline Dacosta, elle, est loin d'être finie.
Ouais, wouh, j'ai encore 2 heures, moi. Ouais.
Allez Céline, courage. Dites-vous que le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Car oui, Céline, tâchez un peu de prendre exemple sur la motivation inaltérable des stars de l'antenne qui vous entourent, à commencer par Nikos et Jean-Michel Apathy, qui en off hier ne masquaient pas leur joie à l'idée de se lever à 3h du matin un lundi matin de la mi-janvier.
On a supprimé le lundi. On a attaqué directement le mardi.
Ou le vendredi.
Non, c'est abusé le vendredi.
On devrait bosser 3 jours par semaine.
Et pourtant, alors même qu'il rêverait d'une semaine de 3 jours, Nikos Aliagas continue de tout donner à l'antenne chaque matin et d'une manière qui dépasse largement le cadre journalistique, car Dame Nature l'a doté, il le sait, d'un organe sublime. Alors ce n'est que justice sociale, quelque part, qu'il en fasse bénéficier nos auditeurs et surtout nos auditrices, puisque quand il fait une déclaration, on sent que c'est plutôt les femmes qui l'intéressent.
Française, française, mes chers compatriotes.
Française, française.
J'ai dit ça.
Voici, pour vous, l'album de duo qu'on n'attendait plus.
Oh là là.
Céline Dacosta et Nikos Aliagas chantent Yves Montand.
Quand on partait sur les chemins
à bicyclette.
Et en bonus track, découvrez Céline Dacosta chante Michel Delpech, mais toujours avec la voix d'Yves Montand.
Et puis Lorette.
À bicyclette chez Lorette, le tube croisé en forme de double hommage à Yves Montand et Michel Delpech. Pourtant, chers auditeurs, à la question Céline Dacosta est-elle la seule membre de l'équipe à avoir quelques lacunes musicales, la réponse est clairement non, puisqu'en termes de n'importe quoi, la grosse performance est venue hier de celui que Nico surnomme le baromètre sur pied. L'intarissable Laurent Cabrol qui hier matin s'est retrouvé pris au piège d'une question.
Ça y est.
Quelle est votre chanson préférée de Jimmy Page? Une question à laquelle il ne risquait pas de répondre, vu qu'il n'avait qu'une très vague idée de qui était Jimmy Page, et même de comment ça s'écrivait et ça se prononçait. Comme nous allons le découvrir dans cet extrait de légende, car comme beaucoup de nos concitoyens, c'est un trait caractéristique du français. Quand Lolo ne connaît pas quelque chose, il n'avoue pas qu'il ne connaît pas, il bluffe.
Vous êtes plutôt Robbie Williams ou Jimmy Page, mon cher Laurent Cabrol?
Non, Jenny Ped.
Jenny Ped.
Et oui, Lolo n'est ni Robbie Williams ni Jenny Ped, mais plutôt Johnny Ped. Qui était ce Johnny Ped, le sixième village people? On ne sait pas, on vous laisse le soin de trouver.
J'en ris encore.
Oh là 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 là. Vous passerez rien. Ma fourche à
languer,
voilà.
Vous passerez l'album de Johnny Pedd. Bonjour à tous, ça fait du bien de tomber du lit avec le sourire. De toute façon, il faut rire, et non pas rire de tout, mais commencer... voilà, laissez tomber. Bonne journée, recouchez-vous.
Je trouve que c'est très bien.
Maintenant, on peut rire de Johnny Pedd.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.